Actu SF, les podcasts.
Bonsoir et merci à tous pour être venus aussi nombreux à cette table ronde sur qui s'intitule La fantaisie épique. Pour moi, c'est la baston. Et donc, pour parler de ce thème, nous avons Steven Erickson, qui nous vient du Canada et qui est l'auteur des Jardins de la Lune. C'est le premier tome du Livre des Martyrs, qui est une grande saga épique de fantasy qui comportera 10 volumes au total. Et bon, on va en parler, c'est tout à fait prenant. À côté de lui, qui essaye de remettre en place le livre de Gabriel Katz, nous avons Pierre Pevel, qui est l'auteur pour le plus récent de la trilogie du Haut Royaume, tome 1, Le Chevalier, tome 2, L'Héritier, et tome 3, Le Roi, que vous voyez ici. Vous ne tenez pas compte de l'image que vous voyez sur le PowerPoint. Il y a eu une petite erreur, c'est une série spin-off, hein, Pierre. Voilà, cette cité. À côté de lui, Gabriel Katz, qui est l'auteur de plusieurs romans de fantasy. Alors, La maîtresse de guerre, que vous voyez ici, mais dont nous ne parlerons pas beaucoup, c'est son roman le plus récent, c'est un diptyque qui s'appelle La part des ombres. Et il en avait fait un autre avant qui s'appelle Eternia, dont nous parlerons aussi. Et à côté de moi, Pierre Bordage, qui est tout petit soudainement. Ouais. Voilà, Pierre Bordage, vous êtes mis à écrire de la sous-littérature au lieu de rester à la science-fiction. Voilà le résultat. Non, toute plaisanterie mise à part, bon, Pierre Bordage, grand auteur que nous connaissons tous de science-fiction, s'est essayé aussi pour la première fois à la fantasy avec Arcane. Premier tome, La Désolation, et pour une première fois, Coup de maître. Donc là aussi, nous allons en parler. Et alors, évidemment, bon, la baston, on voit immédiatement, surtout pour la fantasy, des armées gigantesques qui s'affrontent avec des milliers de cadavres à la fin de la journée, des magiciens qui se battent à coups de boules de feu et d'éclairs, etc. Bon, c'est sûr, il y a ça et on aime ça dans la fantasy, mais il me semble que là, ça serait un peu réducteur. La baston, c'est pas seulement, à mon avis, la violence physique, mais ça recouvre aussi, et surtout en fantasy, d'autres formes de violence qui me semblent plus insidieuses. Et c'est de ça que j'aimerais que nous parlions, parce que dans tous vos romans, on trouve ces autres formes de baston. Alors, je vais peut-être commencer par celle qui paraît la plus évidente lorsqu'on lit vos romans, qui est l'oppression politique. Hein, on va peut-être commencer alors avec notre ami canadien, Steven Erickson. La violence politique, elle est très présente dans Les Jardins de la Lune, avec par exemple l'opposition entre l'impératrice Locine et son mage Téchren contre le haut point du Jec. C'est un des exemples, il y en a d'autres.
Political violence. I guess I would view political violence as a manifestation of, as you say, a more insipid form of violence, which begins probably in each and every home, and the politics is simply an extension of that beyond the home.
Oui, la violence politique, en fait, c'est effectivement une manifestation d'une violence qui est peut-être un petit peu plus insipide et qui commence en fait dans chaque foyer. Et en fait, la politique n'est qu'une extension de cette violence.
There are many expressions of power, and the political one, of course, is the one that we tend to see the most.
Closer.
Sorry?
Closer. I think that.
Okay.
hear
but
you.
But they can understand me anyways. So. okay. Yeah, where was I? The political is the sort of historical expression. So when you look at a work of history, like a history book, it tends to concentrate the storyline as being one of political struggles. But of course, those are only the most obvious expressions of struggles for power that exist within a culture and then between cultures. And that's all to do with the worldview.
Il y a plusieurs expressions du pouvoir. La politique, c'est ce qu'on a tendance à voir le plus. C'est une expression historique du pouvoir. Quand on regarde une œuvre d'histoire, notamment évidemment les livres d'histoire, on a justement une histoire qui est concentrée autour de luttes politiques. Et c'est ce qui est en fait le plus évident dans les cultures. Oui, la lutte politique, c'est ce qu'il y a de plus évident en fait entre les cultures.
Pierre Pevel, chez vous aussi, dans le Haut-Royaume, il y a une violence politique, et je pense que l'une de ses plus belles incarnations, c'est la magnifique reine Ciellane.
Oui, il y a dans le Haut-Royaume, il y a beaucoup d'ambitieux et des gens puissants. Qui, soit par la naissance, soit par la richesse, et qui ne reculent devant pas grand-chose pour arriver à leur fin. Donc ça se traduit, entre autres, oui, en effet, par une violence politique extrême qui se manifeste aussi bien au quotidien par des complots et régulièrement par des assassinats ou des guerres, ce sur quoi je n'ai pas eu à inventer grand-chose. Il suffit de... considérer l'histoire depuis aussi longtemps qu'on a pu l'écrire pour voir ce genre de choses. C'est malheureusement un fait humain, je pense.
Et qui se traduit bien en fantaisie, on retrouve partout.
Ah, qui se traduit extrêmement bien en fantaisie, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, bon, évidemment pas dans cette assemblée qui est sans doute initiée à ce que peut être la fantaisie, mais la fantaisie justement, c'est un de ses aspects les plus intéressants, selon moi, c'est l'humain. C'est de pouvoir confronter l'humain à des situations extrêmes et absolument, et là pour le coup, très différentes de ce que l'humain peut rencontrer dans la vraie vie. C'est quand même quelque chose de se demander comment on réagit, par exemple, dans un univers. Alors, il se trouve que ce n'est pas le cas chez moi, mais dans un univers où les dieux existent, où l'existence des déités est avérée. C'est le problème de la foi, déjà, se pose plus. Rien que ça, ça change quand même quelque chose de... Donc, le matériau humain est ce qu'il y a de plus important et dans toutes ces expressions. Et je pense, de toute façon, que ça doit être pareil pour mes petits camarades. Lorsque des lecteurs apprécient mes bouquins et viennent m'en parler, ils me parlent des personnages. Beaucoup plus que de tels paysages, de tels royaumes, voire même de telles batailles. On me parle des personnages, donc de l'humain.
Gabriel Katz, chez vous aussi, la violence politique est très présente, vous l'abordez dans quasiment tous vos romans. On l'a trouvé déjà dans le puits des mémoires, mais elle atteint... Ah, pardon, je disais que c'est vrai, je fais des remarques, je me permets de faire des remarques aux autres et moi-même, je n'applique pas mes propres conseils, désolé. Oui, Gabriel Katz, je disais donc que la violence politique chez vous aussi, c'est quelque chose que vous avez abordé dans beaucoup de vos romans. Ça a commencé dès Le Puits des Mémoires et ça atteint quelque part son paroxysme dans La Part des Ombres parce que les traceurs, c'est l'oppression politique d'un autre pays par excellence.
Absolument. En fait, ce qui est marrant, c'est que généralement, que ce soit aux Imaginales ou ailleurs, on me classe dans les amoureux de baston. C'est bien. Je fais les arts martiaux, tout ça, c'est superbe. Mais mes bouquins, si on les met bout à bout, je pense qu'il y a 3 scènes de bataille. Et elles ne sont pas très, très, très épiques, en fait, mes scènes de bataille. En revanche, la violence politique, c'est quelque chose qui me parle pas mal, parce que justement, comme disait Pierre, c'est une question d'humain. Et ça devient assez fascinant de voir à quel point un personnage qui a des motivations parfaitement communes, le pouvoir, l'argent, le sexe, va mettre le monde à feu et à sang pour ses petites ambitions, en fait. C'est ça que j'aime bien. Donc, je ne sais pas si La Part des Ombres est vraiment un paroxysme. Il y a un jeu de miroir dans La Part des Ombres, que je vais spoiler donc allègrement pour cette salle. Il s'agit d'une population qui occupe un royaume. Donc, les occupants pensent tout de suite aux nazis, on pense à des choses terribles, etc. Ils ont l'air très violents, très affreux. Et au final, ils ne sont pas si caricaturaux que ça, ils ne sont pas si méchants que ça. Et on commence à se demander au fur et à mesure de la lecture, j'espère que vous le demanderez, si vraiment ils sont si violents que ça politiquement parlant. Et ce qu'il y a en face n'est pas tellement plus reluisant. C'est vraiment un jeu d'individus qui se tirent la bourre pour le pouvoir.
Pierre Bordage, à Arcane aussi, la violence politique est extrême, surtout au sein des maisons qui gouvernent.
Oui, la violence est partout. J'ai l'impression qu'elle est... Enfin, la question que je me pose, et c'est vrai qu'en faisant de la fantasy, on travaille beaucoup sur l'humain, sur la matière humaine, même en faisant de la science-fiction, si on l'imaginaire de façon générale, ça permet de mieux étudier, par le biais des archétypes souvent d'ailleurs, de mieux étudier ce qui se passe chez les humains. Et la violence, elle est absolument partout. Et j'ai l'impression que le pouvoir politique d'une civilisation, d'une société... est le reflet de la violence qui se situe à tous les étages de la société. Et donc, dans mes familles, n'échappe pas à la règle. Alors qu'on a créé une sorte de division des tâches pour essayer de créer une harmonie, ce qui voulait reprendre... Enfin, je me suis basé sur les lois de Manu en Inde qui ont créé les castes. Hein. Les castes, au départ, une idée de créer une harmonie, c'est-à-dire que les gens qui savent faire des choses transmettent et donc permettent de perpétuer le système. Bien finalement ça tourne mal parce qu'il y a toujours des ambitions qui se réveillent, des mal-êtres qui se révèlent aussi, et donc à un moment on va jalouser la famille plus puissante et on va essayer de la faire celle qui a le pris le plus d'importance dans le système et qu'on va essayer d'éliminer, et donc ça met en l'air tout le système, et le système est déjà corrompu à la base. S'il y a cette violence, c'est que le système est corrompu quelque part. Donc c'est juste une expression de la corruption et de la violence qui est à tous les niveaux de la cité. Donc voilà, c'est ce qui m'intéressait effectivement aussi dans Arcane, c'était ça, c'était cette relation à l'oppression, à l'harmonie perdue et à la façon d'essayer de régler les choses par l'extrême violence, d'où la fuite d'Oziel, la jeune fille dont la famille est assassinée, qui va essayer de retrouver son frère par esprit de vengeance, qui va créer un autre cycle de violence, etc. On est dans une stratégie très classique, enfin dans un schéma narratif très classique, qui est très, à mon avis, axé sur la mythologie. Hein. Enfin, je veux dire, dans l'Iliade et l'Odyssée, les rois n'arrêtent pas de se jalouser, les dieux se jalousent, les rois se jalousent, les humains se jalousent, les guerriers se jalousent, tout le monde se jalouse, ça finit par faire des guerres, les déesses se jalousent parce que elles veulent toutes être la plus belle aux yeux des mortels, enfin, etc. C'est un vieux schéma qui existe. Et je me demande si c'est intrinsèque à l'être humain, et c'est cette question qui me hante un peu dans tous les bouquins. Est-ce que les humains sont condamnés à la violence ?
Pierre ?
En outre, il y a, pour parler un peu de cuisine interne, un des meilleurs moteurs dramatiques qui soit, peut-être même le seul, c'est le conflit. Si vous prenez deux personnages, vous les mettez dans une même pièce, s'ils sont d'accord, il ne se passe rien. S'ils ne sont pas d'accord, c'est déjà nettement plus intéressant, vous avez quelque chose à raconter. Mais si en plus ils ne sont pas d'accord et qu'ils ont tous les deux raison, alors là, ça devient vraiment très très intéressant. Je pense à ça parce que quand tu évoquais le personnage de la reine Céliane, qui franchement dans le premier tome, je trouve pas de mots polis pour parler d'elle, franchement quoi. Elle est pas très fréquentable quoi. On n'a pas envie de l'aimer. Mais il me semble que c'est dans le deuxième tome que on découvre ses motivations. Le pourquoi du comment, pourquoi elle se comporte comme elle se comporte. Alors, il est certes que les moyens qu'elle emploie sont très, très condamnables. Hein. Je les valide pas du tout. Mais par contre, on découvre que c'est pas pour elle. C'est-à-dire qu'elle a de l'ambition, mais c'est pas pour elle qu'elle se bagarre vraiment. C'est pas pour elle qu'elle fait tout ce qu'elle fait. Et donc, on arrive à cette situation où la meilleure, quand même, c'est quand le héros et le méchant, certes, s'opposent, mais qu'ils ont tous les deux raison. Ou en tout cas, tous les deux de bonnes raisons de faire ce qu'ils font.
C'est vrai qu'on ne peut pas en dire plus parce que sinon ça spoilerait gravement.
Oui, et je veux que vous achetiez mon livre parce que c'est comme ça que je mange. Donc c'est pour moi important.
Mais vous découvrirez en lisant le livre, effectivement, c'est très complexe et en même temps, c'est quelque part presque touchant, effectivement, d'un certain côté. Alors, on vient de voir...
Juste pour revenir à ce que disait Pierre, c'est que les bons méchants font les bons romans aussi.
Évidemment. Et regardez dans les James Bond de quoi on se souvient.
Ouais. De Jaws et de.
Ou de Goldfinger, quoi.
Les bons méchants ne sont pas des méchants gratuits, c'est ça qui est intéressant. C'est que, comme tu dis, ils ont de bonnes raisons d'être méchants souvent. C'est ça qui les rend si humains, finalement.
Steven, vous avez peut-être quelque chose que vous voulez commenter là-dessus ou... On continue. Non ? Ok. Gabriel ?
Alors, les méchants, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et j'avoue, là, devant cette assemblée qui ne le répétera pas, que j'ai toujours préféré mes méchants à mes gentils. Et c'est un truc terrible. Et d'ailleurs, il y en a certains que j'ai tués, particulièrement dans le Puits des Mémoires, d'ailleurs. J'ai presque regretté les avoir tués pour ne pas les avoir utilisés dans d'autres tomes. Je me suis dit, là, il aurait pu me servir, il était vachement bien. Le méchant a généralement des enjeux et, et un fonctionnement, une mécanique psychologique qui est plus intéressante que celle du héros. Généralement, en tout cas en ce qui me concerne. Je trouve qu'il y a il y a une nouvelle génération de méchants aujourd'hui qui n'est plus Dark Vador, qui n'est plus Sauron en haut de sa tour avec ses éclairs. C'est un peu mort, tout ça. Et on a aujourd'hui des gens assez humains qui sont ce qu'ils sont, qui sont pervers, qui sont durs, qui sont terriblement violents politiquement parlant, mais qui ont des raisons de l'être, effectivement.
Je suis un peu pas d'accord avec toi dans la mesure où... Non. C'est pas nouveau, Milady, c'est un personnage extrêmement complexe, c'est une méchante. Et en fait, quand on sait le pourquoi du comment, on peut commencer à lui trouver des excuses. Mais encore une fois, les moyens sont discutables.
Bien, ben, là, alors, on a déjà abordé donc, cet aspect de la violence politique. Et effectivement, c'est quelque chose qui... en même temps nous parle beaucoup parce que c'est ce qu'on voit en ouvrant ces journaux. Autre chose, un autre aspect aussi que l'on trouve dans les romans de fantasy et qui me semble extrêmement d'actualité, c'est la violence religieuse. Violence religieuse, il n'y a pas besoin de s'étendre là-dessus. Et alors, dans tous vos romans, il y a beaucoup de violence religieuse. Steven Erikson, par exemple, dans Les Jardins de la Lune, Pierre Pevel disait tout à l'heure que dans ses romans à lui, les dieux ne se mêlent pas aux hommes. Je crois que sans spoiler, on peut dire que chez vous, les dieux sont comme les dieux grecs. Ils interviennent d'une certaine manière.
They are, but also mortals can meddle with gods. And that was one of the things that I really wanted to explore in the series. Is that power, when it's in its at its most basic form, actually can run both ways. And so I wanted that relationship between the worshipper and the god to be much more ambivalent and ambiguous than it may often appear in religions here in this world, where the gods don't answer directly. Or physically, our pleas or our prayers. So, in that respect, I was interested in a kind of an exchange of worldviews between the gods and those who worship those gods.
Oui, mais moi j'étais intéressé aussi par le fait de pouvoir placer les mortels dans une position où eux-mêmes pouvaient interférer en fait dans les affaires des dieux. Et je voulais explorer en fait le pouvoir dans sa forme la plus basique, et je voulais surtout faire que ça puisse aller dans les deux sens en fait. Et je voulais que la relation entre les dieux et les mortels soit plus ambivalente et ambiguë que ce qu'on trouve dans le monde réel dans lequel évidemment les dieux ne répondent pas forcément à nos prières. Et donc j'étais intéressé par cet échange de vision du monde entre les dieux et leurs fidèles.
Accordingly, gods are actually helpless before their worshippers, because their worshippers are the ones who establish a means of social control in the name of that god. But if the god is unable to intercede in that, then of course it quickly moves from the sacred to the profane. And that exists in this world as well.
Et oui, donc du coup, les dieux sont un petit peu sans défense face à leurs fidèles. Ce sont les fidèles qui veulent mettre en place des moyens de contrôler, mettre en place un contrôle social. Et donc, à partir du moment où les dieux, eux, n'interviennent pas, et on passe très vite du sacré au profane. Et ça, d'ailleurs, ça existe dans notre monde.
Pierre Pevel. Chez vous aussi, on trouve l'oppression religieuse. Et en particulier, ce qui m'a frappé dans le troisième volume de Haut Royaume, c'est l'essor du culte du dragon roi sacrifié.
Oui, c'est un culte qui est présent dès le début dans la série, mais qui est plus particulièrement représenté dans le troisième tome grâce au personnage d'un des trois princes, des fameux trois princes de la guerre des trois princes, qui est lui-même un dignitaire religieux. Et j'essaye de maintenir une certaine ambiguïté, c'est-à-dire que je ne m'exprime pas trop sur la sincérité de la foi du bonhomme. Peut-être qu'il croit vraiment en ce qu'il dit, ou alors pour lui, la religion n'est que l'instrument d'un pouvoir et le moyen de son ambition. Je trouve que c'est un aspect intelligent, encore une fois, malheureusement éminemment humain, de ce qui nous constitue. Ce personnage-là aussi, j'ai essayé de le rendre intéressant. Alors, il se range quand même plutôt dans la catégorie des méchants, mais justement, c'est dans son ambiguïté qu'il trouve un intérêt. C'était un pur ambitieux, enfin, en tout cas si je le présentais comme ça, comme étant qu'un ambitieux qui utilise de manière cynique la religion, ou si c'était qu'un fou fanatique qui poursuit une mission, je pense qu'il serait moins intéressant que si on maintient cette ambiguïté. En plus, très sincèrement, je me demande si les choses dans la vraie vie, elles sont toujours aussi claires, en fait. C'est-à-dire que... On a tous dans l'histoire des représentants religieux ou des représentants politiques qui incarnaient une cause, par exemple. Mais toute petite parenthèse, on toujours passe bien sûr, par exemple, si Castro à Cuba était un marxiste sincère au début, ou s'il a fait preuve d'opportunisme. Moi, je trouve que cette ambiguïté-là, non seulement elle est plus intéressante, mais elle est vraiment plus humaine. C'est que je ne pense pas que les choses soient aussi claires que ça. Je pense qu'il y a des gens qui, eux-mêmes, ne savent pas trop s'ils croient vraiment en ce qu'ils disent, ou si c'est l'instrument de quelque chose qui les motive, eux, personnellement. Cette ambiguïté-là, elle m'intéresse. Et elle débouche de toute façon sur une violence qui est infligée à autrui, mais ça, c'est plutôt la règle que l'exception.
Gabriel Katz, la violence religieuse, c'était le cœur du sujet de votre diptyque précédent, Eternia, c'est ça.
C'est tout à fait ça, oui. En fait, le principe de la religion, c'est qu'elle est, bâtie, enfin le principe, les religions judéo-chrétiennes au moins, c'est qu'elles sont bâties sur la souffrance. Et la victimisation, parce que sinon une religion ne prend pas son essor. Vous voyez l'image du Christ en croix, par exemple, c'est quelque chose de très frappant. S'il avait joué au tarot avec ses apôtres, ça n'aurait pas marché du tout, en fait. Donc, il y a un moment ou un autre où il faut frapper les esprits par de la violence, par le fait de dire, voilà, on est des victimes, on s'est fait écraser, c'est atroce, mais on va s'en sortir. Toutes les religions sont nées de ça. C'est à peu près ce qui se passe dans Eternia. Dans Eternia, donc, aucun rapport avec, bien sûr, ce qui s'est passé dans l'histoire, mais vous avez, dans un contexte religieusement assis depuis des siècles, qui obéit à un culte pas très contraignant, de la grande déesse, tout ça, avec une sorte de Vatican très, très assis. Vous avez un culte monothéiste qui arrive, qui prêche la pauvreté et le dénuement et l'égalité. Magnifique. Donc ce culte en question, il va lever tout le monde. Et comme il lève tout le monde, eh bien, il lève tout le monde avec les abus ou les excès qui peuvent aller avec. Parce que politiquement, c'est toujours très, très difficile de fédérer des gens parce que, bah, on va se dissocier. Au niveau de la religion, c'est magique. Parce qu'on dit, voilà, c'est lui là-bas que vous n'avez jamais vu de votre vie, il est au-dessus et c'est lui qui demande. C'est pas moi, je suis son véhicule. À partir de là, toute la violence est ouverte et facile et c'est un tremplin en fait pour le pouvoir, c'est quelque chose d'assez fort. Donc il y a une scène par exemple dans Eternia qui est un peu biblique quelque part, qui est vraiment très anecdotique, qui est une scène où le peuple tout heureux et tout joyeux, tout ivre de pouvoir est en train de prendre le pouvoir dans une ville, dans un quartier de notables. Et ils mettent des croix sur les portes des gens qu'ils estiment mauvais, qu'ils estiment contre l'égalité, contre la nouvelle religion. Et bon, la croix pour dire ce type derrière, il faut le tuer. La toute première scène, c'est un chapitre que je peux dévoiler parce qu'il a très peu d'importance, c'est une toute première scène avec un type qui vend du... C'est un marchand, hein, il vend des trucs chers. On lui met une petite croix sur la porte et il se fait lyncher par la foule parce qu'il vend des choses chères, qu'on le déteste, parce qu'il fait de l'argent en fait. Qu'est-ce qu'il y a de religieux là-dedans? Je ne sais pas exactement. Il y a quelque chose de très fascinant à se dire, au nom de quelque chose qui n'existe pas, enfin, qui peut exister, pardon, on peut aller très 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 loin dans la manipulation politique.
Pierre Bordage, dans Arcane aussi, on trouve deux cultes concurrents, celui de la résurrection et celui de la désolation, alors qu'on est dans un système qui a été créé par les déesses.
Ouais, je voudrais parler du pouvoir religieux. Je pense que le pouvoir religieux, il est le plus important. Il surpasse le pouvoir humain. D'ailleurs, les rois de France n'existaient que parce qu'ils étaient investis d'un pouvoir divin, de droit divin, on disait. Donc, c'était quelque chose d'indiscutable. Et comme le disait Gabriel, c'est qu'à un moment, vous savez, vous vous souvenez de ce film Icom Icare, où selon la personne qui donne l'ordre, selon la hiérarchie de la personne qui donne l'ordre, on va accepter plus ou moins de faire mal à l'autre. Si on est couvert par un ordre, alors on peut torturer quelqu'un jusqu'à la mort s'il le faut, mais on est couvert. Et la religion, c'est la couverture suprême, c'est-à-dire que au nom de cette couverture suprême, on est capable de faire n'importe quoi, d'où le déchaînement, parce que notre époque, n'est-ce pas, il n'y a pas de violence religieuse, ça n'existe plus. Ça permet de pouvoir déchaîner une violence incroyable parce qu'on a le sceau, enfin on a l'accord du divin et donc ou de son représentant qui lui jure par le divin et donc on a l'accord du type qui là-haut décide de tout, de ta vie, de ce que tu deviendras après ta mort, de ton châtiment, de ta récompense et donc là on est prêt à faire n'importe quoi. Et toutes les violences possibles. Et donc, le culte religieux est toujours déchaîne, je pense, les violences les plus extrêmes dans toute l'histoire de l'humanité. Mais particulièrement les religions monothéistes. Alors, je suis d'accord aussi parce que je pense que dans les religions, bien que ça soit en train de changer, parce qu'en Inde, on a commencé à avoir des partis nationalistes, on commence à tuer les mangeurs de vaches au nom de la religion. Enfin, ce qui est un peu l'inverse de, je veux dire, pour ne pas faire de violence à une vache, on va faire des violences à des humains. Et là-dessus, on a aussi l'accord de sa propre religion. Les religions monothéistes ont créé vraiment cette sorte de violence extrême parce qu'il y avait un dieu unique qui était intolérant et qui disait, si vous ne faites pas partie de mon groupe, alors vous êtes exclu à jamais. Et ça c'est absolument insupportable pour un être humain. Et je pense que ça crée des violences considérables. On n'a jamais tué aussi bien que pour les guerres de religion, les massacres des protestants, des massacres dans l'histoire, il y en a eu des dizaines et des dizaines pour des motifs religieux. Donc, regardez même la Révolution française qui, pour supporter ses propres horreurs, a inventé le culte de l'être suprême. C'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'il y ait un boss au-dessus qui dise ben non, on a le droit de faire ça, les gars, on a le droit de vous couper la tête parce que sinon, c'est carrément insupportable ce qu'on fait. Donc, évidemment, dans Arcane, il y a cet aspect-là du religieux qui manipule et qui, au nom de ses propres principes, pousse les familles régnantes à s'entretuer et à une répression de tous les instants. C'est un vrai classique que j'ai beaucoup utilisé dans la plupart de mes livres, aussi de science-fiction. C'est la façon dont le pouvoir religieux s'instaure et détruit au nom de ses propres principes, quitte à faire comme ce que fait l'Église catholique, à renier ses propres principes. Tu parlais de l'homme crucifié, de son prophète, donc, et de dire « aimez-vous les uns les autres », par exemple. Bon. Ok, comment on fait ? ou ce que vous faites au plus petit d'entre moi, c'est à moi que vous le faites, autre principe du Christ. L'Église catholique se proclame d'un Dieu suprême, mais occulte va à l'encontre des propres principes énoncés par ce prophète. Donc c'est le paradoxe des religions et l'insupportable violence des religions, quoi.
Steven Erickson.
I'm actually really surprised at what I've been listening to from this particular comment regarding religion. It seems to be very much a modern atheistic perspective on religion and the power that religion can have in cultures. We'll stop there for a sec.
Je suis assez surpris parce que j'entends ici plus particulièrement en ce qui concerne la religion, parce que ça me semble être une approche résolument athée et moderne, un regard résolument athée et moderne.
And because of that, it also seems to be predicated upon the notion that those who are mortal speaking on behalf of their gods are free to do so because those gods do not say at any point, hey, wait a minute, that's not what I meant.
Et ça semble assez étrange parce qu'il y a des gens qui se réclament de parler pour des dieux et ils peuvent continuer à le faire tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de dieu qui peut interférer à un moment et dire, attends une minute, c'est pas du tout ça que je voulais dire.
And that's what fantasy allows, is that we can actually have the gods present there to actually object to the twisting of their belief systems or their philosophies, their thematic approaches to the world. And that really changes the dynamic of everything, because no high priest is going to speak on behalf of a god who may object to what's being said, reach down and rip his head off.
Et ça, c'est ce que la fantasy permet, parce que les dieux sont présents et ils peuvent s'opposer à ce que justement on modifie leur philosophie ou leurs enseignements. Et ça change complètement la dynamique, parce qu'on ne peut pas avoir un haut prêtre qui va donner des principes qui vont à l'encontre de la philosophie d'un dieu, parce qu'à ce moment-là, le dieu, il peut tout simplement tendre la main et lui arracher la tête.
Gabriel,
je peux rajouter un petit quelque chose. En fait, c'est vrai que s'il y a un dieu quelque part au-dessus qui intervient, c'est quelque chose qu'on peut se permettre en fantasy. C'est une approche qui est intéressante, certainement. Mais je trouve qu'il y a un côté amusant dans le fait de jouer avec des religieux qui rappellent très fortement les nôtres, quand même. Prenez le dogme chrétien, il est très beau. Il est magnifique, le dogme chrétien. Il est sublime. Et ce qu'on en a fait, bon, ça dépend des périodes, quoi. Il y a des moments où ce n'était pas fantastique. La croisade des Albigeois, par exemple, ce n'est peut-être pas tout à fait à la lettre ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Donc j'aime bien en fait, le fait qu'en fantasy, on puisse faire un petit miroir de ce qui s'est passé dans l'histoire, plutôt effectivement qu'avoir des servants de Dieu qui existent. Mais je pense que les deux approches sont tout à fait intéressantes.
Ouais, moi justement, je trouve que c'est une des libertés de la fantasy, c'est imaginer un monde où les dieux existent, où le fait divin, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est comme chez nous, la gravité, quoi, par exemple. Personne dit j'ai foi en la gravité. Sauter d'un immeuble, vous allez voir si ça va changer quelque chose, d'y croire ou pas, quoi. Le fait d'avoir la foi, alors moi, personnellement, moi, je suis athée, mais j'ai le plus grand respect pour les gens qui ont la foi, j'en connais, et cette foi, telle qu'ils la vivent, elle s'exprime précisément dans l'incertitude. C'est parce qu'eux-mêmes ne savent pas, ils ne sont pas sûrs que Dieu existe, qu'ils peuvent avoir la foi. Dès l'instant où quelqu'un est convaincu que tel ou tel Dieu existe, il arrête d'avoir la foi et il bascule vers un fanatisme qui peut rapidement devenir dangereux. Et je trouve que c'est intéressant dans la fantasy, justement, de retourner le propos aussi. C'est-à-dire de se dire, comment serait un monde où il n'y a aucun doute que les dieux existent. Là, il ne s'agit plus de croire, en prenant un panthéon connu, quoi, il ne s'agit plus de croire en Zeus, Athéna ou un autre, puisqu'ils existent de manière certaine. On peut le savoir, et comme le disait mon voisin, ils peuvent même intervenir directement et de manière assez violente par des arrachages de tête. Donc forcément, là, il n'y a plus d'ambiguïté. Donc envisager le fait religieux à travers cette perspective-là est très intéressante. Et là où elle l'est encore plus, c'est que d'une certaine manière, elle renvoie à une époque de l'humanité où c'était vécu comme ça. Les Grecs anciens, ils ne doutaient pas 30 secondes de l'existence de leur dieu. Quand il y avait des cérémonies religieuses, comme je sais pas, bon, les plus connues, les bacchanales ou ce genre de choses, le fait divin était particulièrement véritable, il était incarné, il était là. C'est fascinant parce que c'est une autre manière de penser le monde. Mais la fantasy peut incarner ça aussi. Et on en revient, encore une fois, toujours à l'humain.
Alors, c'est intéressant ce point, mais ce que je me pose comme question, c'est pas, à partir du moment où il y a des dieux qui existent parmi nous, c'est que ce sont des humains. C'est obligé, parce que ils ont une forme, ils ont un espace, ils ont une densité, et donc c'est nous. C'est nous, parce que si les dieux sont quelque chose de différent des humains, c'est que justement on ne les voit pas sous cette forme-là. Ils n'ont pas d'existence matérielle en quelque sorte.
Ils peuvent avoir des incarnations, ils peuvent avoir des avatars, la religion celtique.
On assigne un espace ou une forme à un dieu, j'ai l'impression qu'on l'humanise terriblement, qu'on en fait un objet. On réifie Dieu, et donc quand on réifie Dieu, on perd Dieu. Enfin, c'est peut-être ça la théologie chrétienne qui est venue pour contrer ces visions. Je pense que le polythéisme, c'est une vision de la déité sous toutes ses formes, mais qui représente, il y a toujours une trinité derrière ou quelque chose d'invisible et d'impermanent derrière. La trinité hindoue, par exemple, qui peut s'appliquer aussi bien à la trinité chrétienne, ce sont des aspects du divin. Comme l'homme est un aspect du divin, comme n'importe... Enfin, moi, j'ai l'impression de... La spiritualité, pour moi, est différente des religions. À partir du moment où on a un dogme, il y a un saut à faire pour appréhender le divin qui soit pas une forme. Parce que si on appréhende une forme quelconque, alors on refait de l'humain et on ne parle plus de divin. Donc, à mon avis, si on veut retrouver le divin quelque part, il y a une sorte de saut à faire. Ce que tu appelles la foi, est-ce que c'est de la foi ou est-ce que c'est de l'expérience spirituelle? Ça, c'est la question qui se pose. J'ai l'impression que quand on est dans une spiritualité qui exclut le dogme, parce que quand on n'a pas l'expérience, on est obligé de passer par le dogme. Si on n'a pas l'expérience de Dieu, on passe par un dogme et le dogme devient intransigeant et violent, du coup, systématiquement. Donc, de passer par une expérience spirituelle libre pour trouver le divin en chaque chose, mais qui ne soit pas ni assigné, ni ayant une forme dans l'espace-temps, ni quelque chose qu'on connaisse, quoi.
C'est curieux, oui.
Juste un petit mot, en fait, parce que quand on met quatre auteurs ensemble qui parlent de trucs comme ça, on a l'impression qu'on est des gens très, très compliqués. Mais en fait, nos bouquins sont très simples et cool, hein, vraiment. Pardon.
Alors, curieuse...
En fait, c'est du baston, on est d'accord.
C'est... Je savais ce que je faisais et curieusement, je me doutais que cet aspect-là de la table ronde allait générer beaucoup de discussions. Je suis content de voir que je ne me suis pas trompé. En plus, c'est passionnant et je crois que ça pourrait faire l'objet d'une table ronde entière lors d'une prochaine édition des Imaginales, où là, on pourrait rentrer plus dans le détail. Mais donc, revenons un petit peu à nos...
Sacres
à nos massacres et à nos oppressions. J'aimerais aussi que vous nous parliez un petit peu d'une autre violence qui est présente dans vos romans, qui est ce que j'appellerais, faute d'un meilleur terme, la violence sociale, et en particulier le rôle qui est attribué aux femmes dans les sociétés que vous évoquez. Alors, de temps en temps, il y a une femme très forte, très dominante, mais c'est l'exception. Dans, il me semble-t-il, toutes vos sociétés, le rôle de la femme, en général, est plutôt celui d'un inférieur, jamais vraiment d'une égale.
Alors, Mon monde est totalement imaginaire. Mais alors, totalement imaginaire, c'est-à-dire que dans ce monde-là, les femmes ne sont pas les égales des hommes. Donc, elles ne sont pas traitées comme les hommes, elles n'ont pas les mêmes salaires que les hommes, elles ne sont pas considérées comme un homme. Enfin, voilà. Vous seriez très, très malheureuse dans ce monde-là, alors que le nôtre, il est vraiment incroyable, il est super.
Comme donc, le prouve la représentation féminine sur cette estrade.
Par exemple.
Absolument. Absolument. Donc, dans ce monde totalement imaginaire et qui n'a absolument rien à voir avec le nôtre, j'ai fait par exemple ce roman qui s'appelle La maîtresse de guerre, parce que le premier était un peu plein de testostérone quand même. Il y avait trois bons hommes avec quelques personnages féminins annexes. Et dans La maîtresse de guerre, il y a donc une petite nana qui est personne, qui est la fille d'un maître d'armes, qui veut se faire former aux armes. Personne ne veut la former. Et quand son père meurt, elle n'y arrive pas. Donc du coup, elle part dans une sorte de pseudo-croisade qui va se battre dans un royaume, je ne sais pas où, etc. Et elle, il n'arrive que des horreurs parce qu'effectivement, personne ne veut considérer le fait qu'une femme se batte. Une femme, ça ne se bat pas, c'est à la cuisine, ça fait la vaisselle, ça s'occupe de ses enfants, pas du tout comme les gens penseraient aujourd'hui, du tout. Donc voilà, c'est un monde où, très honnêtement, il est tellement peu différent de ce qu'on peut avoir comme mécanique aujourd'hui que je pense qu'on... Une fille qui voudrait aujourd'hui jouer des coudes pour se hisser au sommet de n'importe quoi ferait à peu près la même chose, sauf qu'elle ne taperait pas sur des gens avec des épées parce qu'on ne sait pas le sujet. Donc voilà, il y a des personnages très forts dans mes bouquins, des personnages féminins qui sont obligés de passer par des circonvolutions pas possibles pour arriver où elles sont parce que la société ne veut pas d'elles. Et encore une fois, c'est imaginaire.
Steven, vous avez l'air très pensif.
Well, the Malazan world, the whole sort of premise underlying the creation of the Malazan world was a world without sexism. And what we did was, and myself and Ian C. Esleman, who co-created the world, we asked ourselves as anthropologists, what would happen if magic actually worked? And then what would happen if that magic was actually accessible to anyone with the determination and the discipline to achieve it.
Le prémisse qui a présidé à la création du monde malaséen, en fait, pour Ian C. Esleman, qui a donc co-créé le monde malaséen avec moi, ce prémisse, c'était qu'il n'y avait pas de sexisme, en fait. Il n'y avait aucune forme de sexisme. Et donc, on s'est demandé, en tant qu'anthropologue, si la magie était accessible à tous et qu'elle fonctionnait à partir de ce moment-là et que tout le monde pouvait l'avoir uniquement à travers la force de la discipline, qu'est-ce qui se passerait?
And the answer we came up with was you could not have a gender-based hierarchy of power that was either exclusive or inclusive regarding a specific gender.
Et la réponse qui nous est apparue, c'est qu'à partir de ce moment-là, on ne pouvait pas avoir une hiérarchie des sexes, que ce soit inclusif ou exclusif.
And we figured with sufficient magical healing that you would not have the medieval kind of setting or scenario where women are simply baby factories. So they could produce one or two children with fair confidence that those children would reach adulthood and the women themselves could then get on with their lives.
Et donc on s'est rendu compte qu'avec une magie qui permettait de suffisamment soigner, en fait, on n'allait pas tomber dans le scénario médiéval classique dans lequel les femmes sont transformées en usines à bébés et elles produisent à la chaîne dans l'espoir que un ou deux réussissent à atteindre l'âge adulte.
And once we sort of explored that notion, it occurred to us fairly obviously that the access to power was open to everyone and that would shape and direct the cultures and the civilizations and their histories in a fairly profound way. So within the series, there really is no sexist language. And it took a long time for readers to actually see that or notice the absence.
Et donc, une fois qu'on a eu exploré cette notion, ce qui était évident, c'était que le pouvoir était accessible à tous et qu'à partir de ce principe, ça allait conditionner les cultures, les contrées, etc. Et puis, on a décidé de ne mettre en place aucune forme de langage sexiste. Et en fait, c'est quelque chose que les lecteurs ont mis longtemps à remarquer.
Just one last thing. It is when you transfer from our world into a fantasy world as a creator, as a writer, it can on occasion be too easy to draw with you various cultural assumptions. So if you're creating a medieval world, do you draw patriarchy across with you? And if you do, is it sufficient in terms of defending yourself and your decision making to simply say that, well, that's how it was in this world? And I would say it's not sufficient.
Et donc, à partir du moment, je veux dire une dernière chose, à partir du moment où on transfère les choses du monde réel vers un monde de fantasy, il est assez facile de transporter avec soi certains principes qu'on tient pour acquis. Et à partir du moment où, par exemple, on crée un monde médiéval, est-ce qu'on emmène avec soi le patriarcat, le système patriarcal et est-ce que surtout, c'est suffisant comme justification pour ramener ce système avec nous? Nous, on est parti du principe que ce n'était pas une justification suffisante.
Pierre Peuvel.
Sur le rôle des femmes. Alors moi, mon univers est clairement patriarcal. Donc, être une femme, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais c'est toujours mieux d'être un mec quand même. Dans cet univers-là. J'espère que mes bouquins ne le sont pas, par contre, patriarcaux. C'est un autre débat. Mais oui, clairement, dans le Haut Royaume, une paysanne a moins d'influence, moins de pouvoir, moins de considération qu'un paysan. Une bourgeoise va avoir plus d'influence qu'un paysan, mais moins qu'un bourgeois, et etc. Donc au final, c'est bien d'être reine, mais c'est quand même moins bien qu'être roi. Dans le tome 2, je me suis plus particulièrement intéressé à un personnage qui est Alicia, qui est une fille, une aristocrate, fille d'un duc très, très, très puissant. Et j'ai pris assez plaisir à la confronter au problème que typiquement elle pouvait rencontrer étant donné sa classe, sa richesse et le contexte culturel dans lequel elle évolue. À savoir qu'en gros, à 25 ans, on est venu lui dire « Vous êtes gentil, mais tic-tac, faudrait quand même penser à se marier, faire des enfants. Vous avez quelque chose à faire. » Et là, je me suis retrouvé face à deux solutions. Elle pouvait faire non, jamais, se déguiser en mec, sauter par la fenêtre, enfourcher un cheval et prendre la tête d'une bande de brigands. C'était la première solution. Ou alors, essayer d'imaginer comment elle allait, elle, gérer les problèmes qui se posent spécifiquement à une femme et essayer d'imaginer aussi comment elle allait les régler avec des solutions de femmes. Sans vouloir tomber dans les caricatures, je reste quand même assez convaincu que femmes et hommes ne résolvent pas les conflits ou les difficultés de la même manière. Et donc, c'était intéressant, plutôt que ce qui est parfois une faiblesse et d'une certaine fantasy, c'est de créer des personnages féminins. En fait, c'est des filles, mais elles se comportent comme des gars, elles ont des réflexes de gars, des ambitions de mecs. Enfin bon, le seul truc qui les change, c'est la biologie, quoi. Mais pour le reste, c'est à côté. Je voulais essayer de dépasser un peu ça et de m'intéresser à ce personnage et à ses ambitions aussi, d'ailleurs, et à sa manière de résoudre des problèmes typiquement féminins. Problème typiquement féminin, je parle de, par exemple, tomber enceinte. C'est quand même assez typiquement féminin. Et de voir comment elle allait le faire. Quoi.
Pierre Bordage, dans la société d'Arcane.
Oui, c'est patriarcal aussi. Je suis un peu embêté pour parler de ce sujet parce qu'on peut tomber dans les poncifs, dire c'est très mal la violence faite aux femmes. C'est vrai, c'est très mal. Je confirme. Mais ça empêche de réfléchir profondément sur les rapports qui nous unissent, nous les êtres humains, et que nous avons tous notre part de responsabilité d'une façon ou d'une autre. et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne plutôt que de dire c'est l'autre qui m'oppresse. Oui, parce qu'il y a toujours un autre qui vous oppresse. Quand vous êtes un homme, vous êtes aussi oppressé. Quand vous êtes une femme, vous êtes oppressé. Mais quand vous êtes un homme, que vous êtes un enfant, vous êtes un vieillard, on est oppressé de multiples façons. Et l'oppression semble être une sorte de règle de base, parce que, par exemple, pour un mec, c'est pas du tout évident d'aller à la guerre, quoi. C'est pas un privilège, c'est un moment qui est assez difficile à passer, je pense. Je suis pas allé, donc j'ai de la chance. J'ai aussi, par ailleurs, constaté dans l'histoire que les reines Bruno et Frédégonde se battaient comme des chiffonnières pour faire hériter leur fils de tel et tel trône, etc. Que les femmes, quand elles avaient le pouvoir, elles reproduisaient aussi des comportements masculins. Donc comment ça se fait, ça ? Est-ce qu'il y a une vraie différence dans la cruauté entre les hommes et les femmes ? Ou que des femmes oppressaient leurs enfants ? Donc j'ai l'impression que de dire « c'est l'autre qui m'oppresse », de porter l'accusation, ce que je lance là, c'est juste des invitations à la réflexion. Ce ne sont pas des dogmes, ni des commandements, ni quoi que ce soit. Hein. Je réfléchis avec vous. Finalement, ce qui me semblerait intéressant, c'est de voir dans quel moment de notre vie, nous-mêmes, on peut succomber à la tentation de l'oppression. Si on a le pouvoir de le faire sur quelqu'un, au travail, dans la famille, si on le fait. Si on le fait, et c'est ça qui est intéressant, parce que si on le fait, alors on participe à l'oppression générale de tout le monde. En quelque sorte, on nourrit le phénomène de l'oppression, parce que soi-même, quand on a la possibilité de le faire, on peut le faire. Donc c'est cette interrogation qui me pousse toujours à réfléchir. Dans les livres aussi, il y a des personnages féminins qui se battent, d'autres qui sont résignés, il y a des putains, il y a des mères, il y a des sœurs, il y a tout un tas de figures féminines. Qui sont ni mieux ni moins bien que les figures masculines, où il y a des pères, des frères, des salopards, etc. Donc, j'ai l'impression que tout ça est partagé férocement entre tous les êtres humains, et que selon les circonstances de la vie, ça se déclenche plus ou moins, selon que vous ayez la possibilité ou non de le faire, selon que l'être féminin ou masculin a la possibilité de le faire, alors elle deviendra aussi... où il deviendra un oppresseur ou une oppresseuse. Il n'y a pas de masculin, donc ça doit être quelque part, c'est bidon, ma démonstration. Mais voilà, donc c'est l'interrogation que je me pose, c'est la remise en cause fondamentale des mécanismes qui régissent chacun, aussi bien les émotions, les sentiments qui nous poussent à commettre des actes qui sont d'une violence redoutable sur autrui. Et voir à quel moment ça se passe et à quel moment ça peut se produire.
Effectivement, je rebondis sur ce que dit Pierre, qui est intéressant. Je pense que l'égalité en fantaisie comme ailleurs est de donner la chance aux femmes d'être aussi infectes que les hommes. Il ne s'agit pas d'être mieux. Il ne s'agit pas du tout d'être mieux. Il s'agit de pouvoir être aussi bonne, aussi mauvaise, aussi pourrie. Pareil. Et disons qu'elles doivent se battre un petit peu plus dans nos mondes de fantaisie, en tout cas ces trois-là, que... J'ai pas lu Steven, mais visiblement le sien n'est pas patriarcal. Mais sinon, elles ont beaucoup, beaucoup de mal à s'imposer, que ce soit en bien ou en mal. Il s'agit vraiment ni de bien ni de mal.
Bien, l'heure a tourné extrêmement vite. Donc, on va même pas avoir le temps d'aborder un autre sujet qui me tenait aussi à cœur pour la discussion avec vous, qui est la violence culturelle. Parce que ça aussi, dans vos romans, le choc des cultures, et l'oppression d'une culture par une autre est quelque chose d'important. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps d'en parler. Alors, je vais vous poser la question que j'avais gardée en conclusion, parce que toutes ces formes de violence que nous avons abordées dans tous vos romans, dans tous vos mondes, elles entraînent une résistance, bien entendu, de la part d'une partie des populations, peut tourner d'ailleurs même à la rébellion ouverte. Et donc ma question, c'est, à travers vos romans, est-il juste ou légitime de répondre à la violence par la violence?
On n'avait pas inventé Gandhi, quoi, à ce moment.
This is going to sound awful. No and yes. My sense is the most efficacious resistance to oppression is the passive one. And it's often occurred to me when I see violent protest that the more effective form of violent protest would be simply resisting as opposed to fighting back. Okay, I'll stop there for a sec. Go ahead.
Ma réponse va être ignoble en fait. Donc oui et non. Moi j'ai toujours eu l'impression que la résistance la plus efficace était celle qui était passive en fait. Je me suis toujours dit que la forme de protestation la plus violente c'était résister à l'oppression contrairement à se battre en retour, répliquer.
If you think of in the last, well, even 50 years in this world, and you consider the most effective example of protest that at least we've seen in the West has been the Occupy movement that occurred in specifically in New York and parts of Washington a few years back, which was answered by the authorities with the most violent and extreme kind of fear that I think I've ever seen on television. Between the Occupy movement simply did not have a specific agenda, so it could not be co-opted. And it simply resisted. And it resisted through presence. People simply stood places, they sat places. And I don't know if you've seen clips, but the police response to that was so over the top, it was absolutely stunning. And I think that is an example of a passive resistance that shook some of the foundations of the West right to the core.
Si on regarde dans les 50 dernières années, je pense que la résistance la plus efficace qu'on ait pu voir, la forme de protestation la plus efficace qu'on a pu voir, au moins dans nos contrées occidentales, c'est le mouvement d'occupation qui a eu lieu il y a quelques années à New York et Washington. Pour lequel les gens tout simplement occupaient des endroits et pour lequel en fait la police a répondu avec la terreur la plus extrême. Je ne sais pas si vous avez vu à la télévision ce qui s'est passé. Et donc ce mouvement d'occupation n'avait pas vraiment de plan en fait. Il se présentait et voilà, il se tenait ou il s'asseyait à différents endroits. Et la police a eu une réponse complètement disproportionnée. Et je pense que c'est la forme de résistance passive qui a le plus secoué les fondations occidentales à leur cœur.
Messieurs, nous faisons nous aussi de l'occupation passive et ça risque de mal se terminer avec
oui,
les gens qui...
Oui, mais j'ai plein de choses à dire et je vais
voilà.
Les dire.
Donc, rapidement...
Donc la violence comme réponse naturelle à la violence.
Justification de la violence. Par la violence.
Moi, je pense que ça dépend d'une part de la violence que l'on subit. Si c'est une sorte de violence culturelle, économique, etc., je suis à peu près convaincu que la violence physique ne sert pas à grand-chose. Par contre, comme réponse à la violence physique, c'est assez efficace. Et surtout, on ne peut pas espérer vraiment qu'il se passe autre chose. Dans le genre non-violent, on cite toujours Gandhi, mais Gandhi, il avait affaire à l'Empire britannique. Alors, ce n'était pas détendre, hein, les gars, on est d'accord. Mais en même temps, ce n'était pas non plus l'Allemagne nazie. Tu vois, le même gars, en 1943, je ne sais pas s'il aurait fait long feu, le type. Donc, c'est un mauvais jeu de mots. Non, vraiment. Donc je pense que c'est qui on a en face, ça compte quand même beaucoup quoi, dans l'équation.
Gabriel Katz.
Alors, répondre à la violence, dans mon cas, dans le cas de mes bouquins, c'est bassement mercantile, en fait. Parce qu'au début, je me suis dit que c'était beaucoup plus simple d'avoir un groupe qui massacre un autre groupe. Le problème, c'est que ça fait 20 pages. Donc c'est très très rapide et c'est voilà. Donc s'il y a un peu d'opposition, on vend plus de livres. Donc c'est pour ça, voilà. C'est pour ça. Je confesse aujourd'hui. Ne le dites pas. Merci.
Pierre Bordage.
Je pense que pour ne pas répondre à la violence par la violence, il faudrait se débarrasser d'une peur fondamentale qui est celle de la mort. Si vous voulez ne pas répondre par la violence, il ne faut pas avoir peur de mourir. Voilà, c'est tout.
Bon, voilà.
Mais la vie, c'est bien aussi. Hein.
Bon.
Je déconne.
Alors, nous resterons sur les sages paroles de Pierre Bordage. Et je crois qu'il ne nous reste qu'à remercier nos quatre auteurs pour leur vision du monde.